Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Crise des gilets jaunes, révision de la loi de bioéthique. Difficile ces derniers temps en France de ne pas avoir l'impression que quelque chose tremble dans notre pays, que ce qui se joue aujourd'hui dessine peut-être une France au visage bien différent. C'est aussi le cas lorsque l'on regarde l'Europe. Rares sont ceux, ne serait-ce que parmi la génération du baby-boom, qui aurait pu imaginer que la Grande-Bretagne claquerait ainsi un jour la porte de l'Europe. Le retour de l'ancien monde, posté sur Facebook Eugénie Bastier, plume montante du journal Le Figaro, jeune tête de file des catholiques dits réactionnaires, au lendemain de l'élection de Donald Trump. Faut-il s'en réjouir? De quoi discuter? Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec trois de nos, c'est presque des chroniqueurs, de nos invités. On les remercie en tout cas de leur fidélité et du temps qu'ils nous consacrent, parce que, figurez-vous, même ça leur demande du travail. Autour du plateau, Anne de la Doucette, cofondatrice de la formation Passeur d'Hommes, bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Bruno Cyr, ancien président de l'Université Toulousain Capitole. Bonjour.
Bonjour.
Et Bernard Ribal, président des Semaines Sociales de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, comme on le disait hors antenne, on n'a pas les mêmes micros qu'à Radio Notre-Dame, donc il faut parler devant les micros, comme me le faisait remarquer avec délicatesse Bernard Ribal. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Non, ce n'est pas la semaine du Radio Don. Bref, au menu donc, de cette émission, la situation des Kurdes, le Brexit, les gilets jaunes et donc les révisions de lois de bioéthique. Ça fait beaucoup de sujets, peut-être qu'on passera un petit peu moins de temps sur les sujets internationaux. Comme d'habitude, j'essaye de résumer la plus récente actualité et puis après je vous laisse commenter. La semaine du 17 décembre dernier, Donald Trump a annoncé un désengagement des Américains sur les théâtres d'opération syriens et immédiatement un certain nombre de personnes se sont inquiétées, au premier chef eux-mêmes, de la situation qui allait être faite aux Kurdes. Alors, les Kurdes, en quelques mots, c'est un peuple de 30 à 40 millions de personnes qui sont à cheval sur plusieurs pays, la Turquie, l'Irak, l'Iran et donc la Syrie. Les Kurdes ont fait beaucoup la une de l'actualité parce qu'ils ont énormément aidé les alliés dans la guerre contre Daesh. Et ils ont même été les premiers à libérer un certain nombre de villes, hein, donc Kobané, Raqqa, etc. Bref, ils ont payé un lourd tribut. Aujourd'hui, ils seraient exposés donc aux velléités guerrières du président turc Erdogan. Je vais juste citer une phrase. « Ceux qui se trouvent dans le corridor de la terreur peuvent recevoir une leçon, vont recevoir une leçon. Pour nous, il n'y a pas de différence entre le PKK et Daesh. » Le PKK étant le parti des indépendantistes kurdes qui est en Turquie et puis aussi en Syrie. Bruno Cyr, que dire de ce que beaucoup prennent aujourd'hui comme une forme de trahison?
Alors les pauvres Kurdes, je dirais, sont habitués à souffrir parce que, comme vous l'avez dit, c'est un pays, le Kurdistan, à l'origine, qui s'est retrouvé divisé en quatre avec, de façon un peu inégalitaire, le gros de la troupe étant en Turquie. Et c'est vrai qu'en Turquie, ils sont persécutés, régulièrement persécutés, et ça dure depuis une centaine d'années. Ils ont eu une fenêtre de tir, là, qui est pour essayer de se faire reconnaître et d'avoir peut-être une certaine autonomie, c'est effectivement la guerre civile qui est en Syrie. Et ils ont bien joué, en luttant contre Daesh, en sachant s'organiser, parce que je crois que la lutte contre Daesh était assez évidente, mais surtout ils ont su s'organiser et ils ont montré qu'ils étaient extrêmement efficaces. Et ça les a mis en position de force pour négocier avec les Syriens une relative autonomie. Mais il faut pour ça qu'ils soient quand même appuyés par la communauté internationale. Et c'est là où on en vient au problème du retrait américain de la Syrie, parce qu'effectivement les Américains et la France et l'Angleterre, qui étaient à côté des Américains lorsqu'on a lutté contre Daesh en Syrie, si les Américains se retirent, ils perdent un appui majeur. Donc je pense que c'est un peu leurs espoirs de voir une autonomie se développer qui leur permettrait de faire des choses intéressantes et de ne plus être le peuple martyr de quatre pays à la fois qui est en train de s'envoler. Donc c'est justifié qu'on s'inquiète, d'autant que ils viennent d'accueillir à peu près 200 000 chrétiens, Je ne sais pas si vous avez noté ça, mais les chrétiens ont été un peu chassés d'Irak et se sont réfugiés dans le Kurdistan syrien. Donc ils sont en situation très difficile, ces réfugiés. Donc c'est vrai que c'est doublement inquiétant.
Alors ils ont déjà commencé donc à faire appel à Bachar el-Assad. On peut expliquer peut-être, je vous laisserai faire, le retournement de situation aussi que ça représente pour eux, dont la ville de Manjib, des forces gouvernementales, dit-on, se serait déjà déployée donc pour protéger les Kurdes face aux velléités guerrières de la Turquie. Anne de la Doucette.
Moi, ce que je trouve que... quand on se penche un peu sur l'histoire de ce peuple kurde, on voit qu'en 1920, avec le traité de Sèvres, on avait promis à ce peuple, c'est quand même le peuple qui est la plus grande nation qui n'a pas d'État dans le monde. Hein, comme vous disiez, il y a 30 millions. On avait quand même promis, nous, les puissances occidentales, avec la SDN et les points de Wilson, un pays. Et on n'a pas tenu nos engagements. Parce que la Turquie a récupéré une partie, l'Irak en a récupéré une partie, puis après les Britanniques. Bref, on n'a pas tenu nos engagements. Et finalement, M. Trump, c'est dans la foulée de ce qu'on fait depuis 100 ans. On n'a jamais tenu nos engagements vis-à-vis des Kurdes. Et qu'on peut aussi, je crois, rappeler que cette persécution, elle existe depuis un siècle, puisqu'il y a eu, je crois dans les années 20, il y a eu 300 000 Kurdes qui ont été massacrés en 1925, par les Turcs. C'est 30 000 en Irak. Il y en a eu à nouveau récemment en Irak.
Donc, et sous Saddam Hussein,
ils étaient gazés. Ils ont eu des villages ravagés. Donc tout effort de résister contre les puissances les unes les autres, à chaque fois, il y a eu une puissance internationale qui a dit « on va vous aider ». Et à chaque fois, on les a laissés un peu tomber. C'est quand même un peuple martyr et... on voit bien que à la fois les pouvoirs, la Syrie, la Turquie les utilisent, et à la fois quand leurs intérêts et la Russie ne seront plus en jeu, on va les laisser tomber. Il y a pas de, c'est la loi un peu malheureusement un peu la diplomatie du mauvais côté.
Bernard Ibal, l'opinion, je pense le sentiment de l'opinion publique, c'est d'avoir vu d'abord ces fameux Peshmerga, dont ces femmes guerrières. Comme les héros en fait de cette guerre contre Daesh, hein, qui ont donc libéré un certain nombre de villes, même remonté le moral presque du monde occidental, en ouvrant des brèches. Et aujourd'hui, je pense que pour beaucoup de gens, en fait, on trahit ces héros. Est-ce que c'est une vision juste de la situation ?
Ils ont été effectivement les plus efficaces militairement au sol contre Daesh. Le contingent américain qui a été annoncé sur le départ est un contingent très faible en nombre, hein, parce que c'est les troupes au sol.
1000 hommes, c'est ça ?
Alors, je ne sais pas exactement, il y en a qui disent 1000, il y en a qui disent 4000, mais même si c'est 4000, ouais, c'est très peu, quoi. Hein. En revanche, c'est l'aviation américaine qui, avec les Kurdes, et quelques autres, mais enfin, essentiellement les Kurdes, qui ont vaincu Daesh, encore qu'il y ait des poches de résistance. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est une très ancienne civilisation, c'est un vrai peuple, quoi, hein, qui a une vraie culture, qui remonte au 4e siècle avant Jésus-Christ, et même avant, hein, civilisation brillante. Et ce que je voudrais dire, c'est que, pour une fois, il y a là, au Moyen-Orient, un problème plutôt sympathique. Parce que tout ce qu'on a vécu depuis des décennies au Moyen-Orient, c'est que des choses sordides. Là, on a un conflit où le pétrole n'est pas l'essentiel de la cause du conflit. Là où, deuxièmement, c'est pas essentiellement un conflit sunnite-chiite, même si ça joue, hein. Ça joue, mais c'est pas l'essentiel. Pour les Kurdes, c'est pas l'essentiel. C'est pas non plus un conflit avec l'Occident. Et voilà, j'ai énuméré les trois causes des guerres du Moyen-Orient. Eux, ils sont légitimes. Ils obtiendront peut-être jamais rien, mais ils sont légitimes parce qu'ils sont un peuple qui existe et qui a droit à l'autodétermination. L'embêtant, c'est qu'il est réparti actuellement dans quatre pays et qu'il y a le fameux principe que vous expliqueriez mieux que moi, monsieur Cyr, hein, qui est celui de l'intangibilité des frontières, qui fait que même l'ONU peut rien dire, quoi, là-dedans, hein, au nom de l'intangibilité des frontières. Donc, on est devant un problème effectivement grave. Et Trump a eu raison de revenir sur sa décision en disant que ça se ferait lentement le retrait, au moins qu'il n'enlève pas l'aviation, Il peut retirer les quelques bons hommes qu'il a, ça ne changera pas grand-chose, mais qu'il ne retire pas l'aviation, quoi.
Voilà, on va dire qu'on va avancer, même si on reviendra peut-être sur la situation de ce peuple. Est-ce qu'on peut dire peuple martyr, du coup, je ne sais pas.
Oui,
incontestablement,
oui.
Incontestablement. Oui. Malheureusement.
Oui.
Peuple martyr. Deuxième actualité internationale, c'est donc le fameux Brexit. Ça n'a pas échappé à grand monde. Le 15 janvier dernier, l'accord qui avait été passé entre Theresa May et Michel Barnier, représentant pour l'Union européenne de ces négociations, a été rejeté par la Chambre des communes par 432 voix contre 202. Depuis la date fatidique, je crois, du 24 mars se rapproche et la menace donc d'une absence d'accord plane. Alors, je vais essayer de donner peut-être les grandes lignes de l'accord parce que souvent on entend parler de cet accord comme d'un feuilleton. Il paraît que c'est même un feuilleton à la Chambre des communes où Theresa May va chaque semaine essayer d'expliquer ce qui se passe et chacun, bref. C'est pour certains un vrai cauchemar. Je vais donner les grandes lignes et je vais vous laisser préciser. Il y a une période de transition donc, qui a été mise en place pour ce départ entre le 29 mars et le 31 décembre 2020. Une période de transition qui pourrait être reconduite. Pendant cette période, a été négocié essentiellement un filet de sécurité. On appelle ça le « backstop ». En anglais, qui permet, si j'ai bien compris, de faire en sorte que la frontière entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord soit maintenue. Et la condition qui a été trouvée pour ça, c'est de faire en sorte que la Grande-Bretagne continue d'une certaine manière de faire partie du marché européen, à condition que soit respecté à la frontière un certain nombre de normes. Alors, oui. Je l'explique pas forcément extrêmement bien. Vous allez aimer
que,
Bernard
que Ball. La frontière, au contraire, oui. Ne soit pas une vraie frontière.
Pour que la frontière ne soit pas une vraie frontière. Oui, pardon. Ben, voilà, je repréciserai peut-être. Toujours est-il que autre point, pardon, le règlement financier. Les Britanniques se sont engagés a priori donc à régler la facture qui serait d'environ entre 40 et 45 milliards d'euros. On pourrait parler de la situation de Chypre ou de Gibraltar, mais ça serait peut-être un petit peu compliqué. C'est un accord donc, en tout cas, qui avait le mérite d'exister et qui s'éloigne et il n'y a pas, semble-t-il, de plan B. Une première réaction, et j'apporterai quelques précisions à cette présentation qui n'est peut-être pas aussi précise que nécessaire. Bruno Cyr.
Alors c'est vrai que c'est un feuilleton qui devrait se terminer bientôt, mais je pense que si on prend un peu de recul, dans les phases finales de négociations aussi difficiles, il y a toujours d'extraordinaires tensions. Moi je ne désespère pas que finalement au mois de mars on débouche sur un accord, parce que je crois que c'est vraiment l'intérêt de l'Europe et l'intérêt des Anglais, et que donc à un moment... le bon sens va finir par faire converger les positions. Alors, quelles sont les principales pierres d'achoppement ? Il y en a deux, en réalité. Il y a d'abord cette histoire de la frontière irlandaise. Si, effectivement, l'Angleterre sort, il va falloir rétablir une frontière avec des droits de douane en Irlande. Or, c'est un sujet extrêmement difficile parce qu'on sait que les Irlandais se sont battus autour de cette frontière.
Ça a fait beaucoup de morts.
Ça a fait beaucoup de morts. Donc, évidemment que les Anglais, comme les Irlandais du Sud, ne souhaitent pas qu'on rétablisse cette frontière parce qu'ils ont peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, c'est une pierre d'achoppement qui est très difficile à surmonter. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'Irlande du Sud ne sort pas. Et si l'Irlande du Nord sort... comment on fait si on ne veut pas que ça devienne un moyen de rester quand même dedans ?
Il va falloir
remettre des droits de douane quelque part.
Mais alors, La solution qui a été trouvée semble un peu surprenante justement pour un pays qui veut sortir de l'Europe, c'est que continuerait donc à exister un territoire douanier unique regroupant l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est ce que j'ai cru comprendre.
Alors,
pour un certain temps, en tout cas.
Provisoirement, ils ne veulent pas rétablir une frontière, mais ils vont quand même se débrouiller pour contrôler les passages de manière à ce qu'il y ait les droits de douane qui quand même s'appliquent lorsque les produits arriveront en Angleterre ou sortiront d'Angleterre. Donc il y a une difficulté là qui n'est pas complètement réglée et qui doit se faire dans la transition. Bon, c'est une pierre d'achoppement. La deuxième pierre d'achoppement, vous l'avez dit, en fait, les Anglais ne veulent pas trop le dire parce que... Mais c'est le coût des 45 milliards. C'est-à-dire, s'il y a autant de gens en Angleterre qui veulent sortir, bien qu'ils voient qu'il va y avoir beaucoup de difficultés à résoudre et que ça va compliquer, c'est qu'ils se disent on va récupérer ces 45 milliards, on ne va pas les donner. Dans l'accord prévu par Mme May, c'est ce que lui reproche évidemment son opposition, y compris une partie des démocrates et des conservateurs, dans son approche, elle a négocié qu'elle paierait 45 milliards, ce qui est la dette de l'Angleterre vis-à-vis de l'Europe si les Anglais sortent. Mais les autres disent qu'il ne faut pas les payer. S'il n'y a pas d'accord, on ne les paiera pas. Et les pertes que nous aurons, du moins ce que disent un certain nombre de gens de l'opposition à Theresa May, les pertes que nous aurons sur un certain nombre de choses, eh bien, on reprendra ces 45 milliards qu'on devait donner et on compensera avec ça. Donc, ils ont endormi, entre guillemets, un certain nombre d'Anglais sur cette question. Et je pense que moi, ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'ils croient. Mais effectivement, no deal, ça veut dire nous ne paierons pas les 45 milliards.
Voilà, en tout cas, personne ne semble satisfait. Les pro-européens donc, sont furieux personne n'est satisfait. Anne de la Doucette.
Oui, justement, parce qu'en plus, il y a une chose, c'est que pendant 2 ans après, les lois européennes vont s'appliquer en Angleterre, mais la Britannique ne participeront plus aux prises de décision. Donc ça, il y a aussi une partie et de l'opposition, des deux oppositions, qui sont furieuses en disant nous n'allons pas appliquer des lois que nous n'aurons pas votées ou des textes que nous n'aurons pas votés. Ça, il y a aussi une des causes de frottement, en fait, en plus.
Voilà, j'ai retrouvé. Comme c'est un peu compliqué, c'est vrai qu'il faut rassembler ces idées. Les pro-européens dénoncent une situation pire que la précédente parce que le Royaume-Uni restera dans une union douanière avec l'UE en perdant tout pouvoir de décision donc à Bruxelles, ce que vient d'expliquer Anne de la Doucette. Et l'autre partie de l'échiquier, les défenseurs d'un Brexit dur, désespèrent quant à eux de voir leur pays reprendre un jour la main sur sa politique commerciale et l'appellent à couper le cordon. Donc, pour essayer de sauver cette frontière, en fait, on reste dans une union douanière. Donc, quelque part, on a les contraintes sans forcément avoir tous les avantages. Bernard Ribal.
Oui, et puis les Anglais sont en train de se percevoir que la City a perdu 10 000 emplois. Elle a perdu des centaines de milliards de livres sterling. Et il y a dans les sondages, plusieurs fois répétés, actuellement une majorité pour ne plus rompre avec l'Union européenne en Grande-Bretagne. Et ceci n'est pas anecdotique, parce que si Theresa May demande un prolongement qu'on risque de lui accorder, un prolongement avant le 24 mars, on lui donne 3 mois de plus, Michel Barnier semble hier, d'accord pour accorder éventuellement un délai sans avoir pris vraiment la décision quand même. Le problème qu'il va y avoir, c'est que la Grande-Bretagne sera toujours dans l'Union européenne au moment des élections européennes. Et il n'y a aucune raison juridique pour que la Grande-Bretagne ne participe pas
au vote.
Et ce vote risque d'être terrible pour les dirigeants britanniques, parce que si les sondages se confirment, il va y avoir un vote à ce moment-là favorable à l'Union européenne.
À des candidats pro-européens.
Avec une majorité de candidats, d'élus pro-européens. Et alors là, moi je lis pas dans le marc de café, mais ça va pas être simple à résoudre tout ça. Et puis les entreprises françaises, mais c'est un autre problème, me paraissent pas du tout prêtes, ni à un Brexit dur, ni à un Brexit mou d'ailleurs. Parce que l'accord de Theresa May, en allant très vite, en étant presque caricatural, je donne un peu raison à l'opposition britannique, ça change pas grand chose, à la situation actuelle de la Grande-Bretagne à l'intérieur de l'Europe, si ce n'est qu'ils ne participeraient pas aux décisions qu'ils devraient appliquer, c'est encore pire que tout, finalement ça ne change pas grand-chose.
Et qu'ils arrêteraient de payer quand même, en tout cas, moins.
Oui, mais les 45 milliards dont parle M. Cyr, juste titre...
Il faut encaisser la dette.
Oui, juste titre, ils ne les ont pas, de toute façon. On ne peut pas dire qu'ils les récupéreront pour autre chose, parce qu'ils ne les ont pas. Hein,
Oui, mais ils ont fait croire au bon peuple anglais qu'au lieu de donner 45 milliards à l'Europe, ils allaient les garder pour eux. Donc c'est ça qui a justifié, je pense, une partie de l'opinion.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Le fait qu'ils ont voté pour... Là, ils se rendent compte que ça va être beaucoup plus compliqué. Et que non seulement ils ne vont pas les inventer, ces 45 milliards, qu'ils n'ont pas en trésorerie, mais qu'en plus, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles ils émargeaient, parce que c'était des aides européennes et que donc ils pouvaient émarger. Et ils tiraient souvent très bien leur épingle du jeu, les Anglais, hein, pour récupérer des fonds dans le domaine universitaire, par exemple, que je connais bien. Les Anglais, eux seuls, captaient pratiquement la moitié des budgets qui sont très très importants. C'est de l'ordre de 22 milliards par an qui sont distribués à l'ensemble de la communauté dans la recherche et l'enseignement supérieur. Les Anglais ont récupéré
une partie énorme. Ils ont un lobbying terrible à Bruxelles.
Donc tout ça, le robinet va s'arrêter. Donc il y a quand même là une difficulté dont un certain nombre d'Anglais n'avaient pas pris conscience et sont en train de prendre conscience, d'où ce revirement. Mais de là à dire qu'il faut organiser un deuxième référendum,
je ne l'ai pas dit.
Non, c'est pas
ça ne va pas se passer.
On va faire une courte pause et puis on va vous retrouver pour parler un petit peu de la France. On va reparler à nouveau de la crise des Gilets jaunes. Voilà, c'est une crise qui dure et donc il faut continuer à en parler pour essayer aussi d'avoir une analyse toujours plus fine et prendre peut-être des bonnes résolutions ou voir quelles sont les bonnes mesures à prendre. Et puis on parlera des révisions des lois de bioéthique puisqu'a été publié le 15 janvier dernier le rapport de la mission parlementaire sur ce sujet.
Emmanuel Pellat.
Le grand débat, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission mensuelle d'actualité avec ce mois-ci autour du plateau Anne de la Doucette, cofondatrice de la formation Passeur d'Hommes. Formation, comment vous la résumeriez à nouveau, Anne, pour ceux qui ne la connaissent pas ?
Une formation à la doctrine sociale de l'Église et à comment être chrétien dans la société d'aujourd'hui.
À Toulouse et bientôt ailleurs.
Partout.
partout.
À Paris, à Nantes, à Lyon, à Lille, à Genève, bientôt à Marseille.
Ailleurs, je parlais dans la région, mais bientôt ailleurs dans la région.
Bientôt ailleurs dans la région.
Bruno Cire, ancien président de l'Université Toulousain Capitole, et Bernard Ibal, président des Semaines Sociales de Toulouse. Alors, les Gilets jaunes. Les samedis se succèdent et les manifestations se ressemblent. Et c'est pas péjoratif à l'égard des Gilets jaunes. C'est un mouvement qui est profondément déterminé et il en fait la preuve. Il y aurait certainement 1000 commentaires à faire. Moi, je voudrais juste vous lancer, libre à vous de répondre à ma question ou pas. Vous voyez, comme je suis grand seigneur en cette rentrée. le 9 janvier dernier a été publié, on en a parlé dans une émission cette semaine, un appel pour un nouveau catholicisme social qui a été lancé donc par un certain nombre de figures. J'en cite quelques-unes. Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Guillaume de Prémard, délégué général d'Ictus, qui fut président de la Manif pour tous. Guylain Lafont, qui a été président du conseil de surveillance de Bayard, si je ne me trompe pas. Marie-Joëlle Guillaume, ancienne éditorialiste de Famille Chrétienne, ou Gérard Leclerc, intellectuel catholique, à la tête longtemps donc, du journal France Catholique. Il y a beaucoup de choses dans cet appel. Moi, j'ai retenu une chose, peut-être c'est là-dessus que je voulais vous lancer. Il y a un moment, une phrase. Cette nouvelle question sociale est sous certains aspects, cette crise, donc plus grave encore que celle du 19e siècle. Et il continue un petit peu plus loin en laissant entendre que ça n'est pas seulement une crise sociale, mais c'est une crise familiale, culturelle, économique, écologique, géographique. Et un peu plus tôt, ils disent « la maison France brûle ». Est-ce, selon vous, exagéré de dire que c'est une crise plus grave que celle du 19e siècle ? On va commencer par vous, Bernard Ibal, parce que, par ailleurs, j'ai cru comprendre, enfin, on l'a dit plusieurs fois cette antenne, vous êtes conseiller spécial du président de la CFTC.
Oui. Là, je vais me contenter de parler en mon nom et de ne pas consulter le bureau confédéral. Joseph Touvenel, qui est un grand ami et qui est vice-président effectivement de la CFTC, je l'ai été avant lui, vice-président de la CFTC, il a signé, je crois que je l'aurais signé aussi peut-être en essayant de faire changer quelques phrases, en particulier celles que vous venez de citer, alors, je les aurais peut-être édulcorées un peu plus.
Pourquoi ?
Parce que je ne crois pas que la crise d'aujourd'hui soit plus importante que celle du 19e siècle. Il suffit de relire Émile Zola et Victor Hugo, on s'apercevra que les Gilets jaunes sont loin d'avoir les conditions de vie des misérables de Victor Hugo. Quoi. Donc moi, je n'aurais pas mis ces termes-là. C'est presque littéraire ce que je raconte, hein. c'est pas très politique. En revanche, christianisme social, c'est un pléonasme quand même, hein. Parce que s'il n'est pas social, je vois pas ce qu'il va être. Moi, c'est le christianisme individualiste, ça veut dire quelque chose, ça ? Ça veut rien dire.
Enfin, ne faites pas semblant de ne pas comprendre, Bernard Ibal. Vous êtes trop intelligent pour ça. C'est derrière ça, il y a la question que pose, on va dire une certaine partie des chrétiens qui alerte ceux qui pensent comme eux et qui appelle à un renouvellement du catholicisme.
Non, mais je vois bien. Je vois bien dans l'association de Loucette ou dans la mienne, les Semaines Sociales, on poursuit à 80% ou 90% les mêmes buts. Je sais bien donc ce qu'est le christianisme social. On a été obligé de parler de christianisme social au cours de l'histoire parce que il a toujours eu à côté un christianisme identitaire. Un christianisme dont le but n'était pas tellement l'ouverture aux autres, mais était de se donner une définition, des repères. Et c'est un christianisme qui est en hausse, ce christianisme identitaire, dans la mesure où l'islam se présente. Et on éprouve le besoin de se trouver les uns et les autres une identité par rapport à une concurrence identitaire.
Peut-être aussi une société libérale libertaire dont les repères ne sont pas les mêmes que celles du christianisme.
Exactement.
Il y a comme les deux facettes.
Exactement. Et ce qu'il y a de grave dans la crise d'aujourd'hui et que le christianisme social, mais avec tous les autres citoyens, doit essayer de résoudre, c'est que il y a quand même un danger populiste, Alain. C'est un mouvement populiste. Pas au sens fasciste du terme. D'ailleurs, le mot populisme au sens fasciste, c'est un sens dérivé de populisme, c'est pas le sens propre. Le sens propre de populisme, c'est un gouvernement sans intermédiaire. Le peuple, l'État. Les Gilets jaunes, c'est exactement ça. Les Gilets jaunes, c'est un populisme. Et il y a là un danger de dérive. Eux, pour l'instant, ne le sont pas dans cette dérive. Mais il y a un danger de dérive et il y a déjà des éléments de langage qui m'inquiètent. L'antiparlementarisme, l'anti-élitisme. Tout ça, on l'a entendu au cours de l'histoire de façon extrêmement dangereuse.
Alors, si vous embêtez, si ça vous embête pas, on va donner la parole un peu aux autres, on vous fera réagir à nouveau. J'aurais quand même, Anne de la Doucette, vous reposer la question sur cette crise plus grave que celle du 19e siècle. J'ai souvenir dans l'émission qu'on a fait cette semaine de Patrice de Plainquette, qui est un des signataires de cet appel, donc essayiste, journaliste français. Son dernier ouvrage, c'est donc Cato, ne devenons pas une secte, paru aux éditions Salvator, qui fait référence donc à cette tentation identitaire qu'il dénonce. Il disait la chose suivante, il disait la différence avec la fin du 19e siècle, c'est qu'aujourd'hui, le dieu argent a tout avalé et il rentre jusque dans l'intimité. Et il prenait l'exemple, on en parlera après, des révisions des lois de bioéthique, de la crise anthropologique que traverse la société française en disant l'argent aujourd'hui, ça n'est pas que, comment dire, n'engendre pas que des crises sociales, il engendre des crises familiales.
Oui, moi je crois qu'il ne faut pas limiter ça juste à de l'argent ou au niveau matériel de vie. De toute façon, c'est vrai qu'heureusement, en 100 ans, notre situation matérielle s'est arrangée parce qu'on ne vit que pour le progrès depuis 100 ans. Donc si on serait au même niveau qu'il y a 100 ans, ça serait quand même très inquiétant.
Oui.
Et je pense que la crise, elle est beaucoup plus humaine, elle est beaucoup plus anthropologique. Et c'est, comme je vous en parlais tout à l'heure, Emmanuel, je pense que c'est une finalité, dans toutes ces questions qu'on voit, finalement, c'est une finalité de société qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut comme société pour demain? On veut une société où l'homme est au centre, où la dignité humaine est au centre, et je pense que c'est la doctrine sociale de l'Église, c'est vraiment ça.
Tout à fait.
Ou est-ce qu'on veut une société dont la finalité est le progrès? Mais le progrès, c'est pas une finalité en toi, c'est ce que dit François-Xavier Bellamy dans son livre Demeure. C'est pas une est-ce qu'on veut que le progrès, le matérialisme, l'argent, est-ce que les critères économiques ne doivent être que l'euro, le déficit ou d'autres critères économiques? Là, je crois qu'on est vraiment un choix, un tournant de société et même en Europe. Et quand on parle de ces montées de populisme, je pense qu'il faut être très respectueux parce que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond qui traverse nos sociétés. Depuis 2 mois, c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé, ces histoires de gilets jaunes. Et pour les formations pasteurs, eh ben, j'ai décidé d'aller un petit peu aux périphéries. J'ai été appelée quelques prêtres plus loin. J'ai même le frère Olivier de Saint-Martin qui m'a dit « ça fait 50 ans, nous je me rends compte que l'Église, on ne fait rien pour les périphéries. On n'est pas là », il m'a dit ça l'autre jour.
Olivier de Saint-Martin étant l'ancien prieur des Dominicains à Toulouse.
Bon, il me l'a dit en conversation privée. Mais donc, il y avait une espèce de prise de conscience qu'on avait abandonné les périphéries. Et en appelant les uns à droite à gauche, je disais « on va venir chez vous, ah mais vous aurez 20 personnes ». Je dis « mais je m'en fiche, moi ce que je veux c'est que ces 20 personnes, on vienne pour eux ». Parce qu'il y a des déserts spirituels à 50 km de Toulouse. Et je pense que...
Et même
à 20 km de Toulouse. Donc, je crois que c'est et les gens sont perdus et les gens ne veulent pas vivre que d'argent. Et ils veulent retrouver des sources, ils veulent retrouver des liens familiaux. Les gens sont seuls. Il faut recréer des liens sociaux. Je crois que c'est très, très, très important. Très, très important. Et ce sont parfois des toutes petites choses. Mais... cette fracture, elle, c'est pas seulement une question. Alors, c'est bien sûr, il y a des casseurs, bien sûr, il y a des anarchistes à droite, à gauche, bien sûr, il y a beaucoup de dérives qui sont pas acceptables. Mais je crois que le fond est vraiment aujourd'hui quelle société on veut et que le grand débat qu'on nous propose M. Macron aujourd'hui ne va pas régler ce problème. On va passer à côté de l'essentiel, j'ai peur. Et je le regrette parce que j'aimerais vraiment que ça se règle.
Bruno Cyr, votre réaction. Je vous vois froncer les sourcils à la dernière remarque de
Mais ça, c'est normal, hein, Bruno.
Non, je ne fronce pas les sourcils. Non, moi, j'ai peur qu'avec des discours un peu incantatoires, on ne fasse rien avancer. On peut toujours se lamenter sur... il faudrait qu'on soit comme ci, il faudrait qu'on soit comme ça. Mais je pense que c'est plus ça qu'attendent les gens, justement. Je pense que les gens attendent des solutions concrètes. Moi, je tire de cette période, je tire 3 enseignements. Un premier enseignement qui me paraît évident, qui est le départ du problème, c'est 1. L'État prélève trop. Hein, c'est quand même ça le et redistribue mal. Donc il y a une remise en question des élites de l'État sur la gestion du bien commun. Bon. je ne m'étends pas là-dessus. La deuxième chose qui me paraît assez évidente, c'est une remise en question des corps intermédiaires. C'est-à-dire, nous ne sommes pas représentés comme nous le voulons. Ça veut dire une remise en question de l'organisation politique, de la démocratie représentative que nous avons mise en place depuis un peu plus de 200 ans. Ça, elle est profondément remise en question. Parce que effectivement, c'est les élus, l'Assemblée nationale est remise en question, mais les syndicats sont remis en question, les médias sont remis en question, donc tout ce qui servait d'intermédiaire est remis en question par la base. C'est une vraie interrogation.
Mais Bruno Sirs, si vous permettez, en fait, vous reprochez à certains autour du plateau d'être incantatoire, mais là, vous refaites l'analyse. L'analyse, on l'a lue, relue et relue.
Ah ouais, mais non.
Il faut y aller. Les préconisations dans ces cas-là. Qu'est-ce que l'on propose?
Oui, la troisième chose, parce qu'après vous allez voir, je vais proposer.
Des relectures et des analyses.
La troisième chose, c'est le lien social. Effectivement, moi, la troisième chose qui est assez évidente dans ce mouvement, c'est que les gens ont retrouvé du lien social, et c'est pour ça que ce mouvement perdure.
Bon, et après alors?
Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
L'acte de l'analyse, quel est-il?
L'acte de l'analyse, c'est qu'effectivement, il y a une organisation politique, d'abord une organisation de l'État à revoir sur les prélèvements et la redistribution. Et là, il faut vraiment qu'on s'interroge sur comment on utilise le budget de l'État. Je pense qu'il y a une vraie analyse à faire en profondeur, et j'espère, moi, que au contraire, le débat va permettre cette analyse, parce que j'attends beaucoup sur cette question de la redistribution.
Une plus grande équité fiscale, alors, c'est ça?
Ben oui, il y a ce problème de la redistribution qui ne va pas dans les bons canaux. Je pense que là, il faut quand même que les politiques s'interrogent. La deuxième chose sur la démocratie, je pense qu'il faut redonner, et sans doute que le pouvoir actuel l'a trop méprisé, il faut redonner du pouvoir localement. On a besoin aujourd'hui, avec les accès à Internet, on a besoin, non pas, et les médias sont remis en question, par quoi? Par Facebook, en réalité. En réalité, quand on va analyser le problème en regardant les réseaux Facebook, on comprend le problème. Et donc, je pense qu'il y a une interrogation à avoir sur comment utilise-t-on les nouvelles technologies de diffusion de l'information, qui sont ces réseaux sociaux, et pour se rapprocher des gens. Alors, et c'est au niveau micro qu'ils vont le faire. Donc, moi, je suis pour une décentralisation.
Et le troisième point de votre analyse, quelle solution vous apportez?
Le troisième point, c'est la doctrine sociale de l'Église. Parce qu'effectivement, pour répondre au lien social, il faut aller, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu venais de dire, il faut aller proche des gens. Il y a besoin de recréer un lien social. Aujourd'hui, tout le monde est sur son petit écran, sa télévision, etc. On a cloisonné les gens. Il faut recréer du lien social. Et je crois que l'Église a une réponse à faire sur ce plan-là.
Bernard Ibal.
Et dans la doctrine sociale de l'Église, il y a le concept de corps intermédiaire, qui manque un peu dans la crise des Gilets jaunes et même du grand débat. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand même, dans ce que dit M. Sire, alors je suis tout à fait d'accord sur son analyse, mais j'ajouterais ceci, c'est que tous les partis politiques, tous les syndicats avaient une idée, avant les Gilets jaunes, avaient des idées très précises, les mêmes, pas les réponses, les questions étaient les mêmes. C'était la question du chômage, c'était la question des migrations, c'était la question du réchauffement climatique et du terrorisme. Alors on n'avait pas les mêmes solutions, hein. Mais tout le monde était d'accord pour dire ça. Les Gilets jaunes, c'est pas du tout ça. Hein. Les Gilets jaunes, c'est pas le chômage. Ils n'en parlent pas de chômage. Hein. C'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, d'ailleurs, de ceux qui travaillent, avec cette idée très positive qu'on doit pouvoir vivre de son travail. Je suis pour. Hein. Je suis pour.
Évidemment.
Mais le chômage, j'en parle pas.
L'immigration, un petit peu, quand même.
Migration. Bon.
La presse n'en parle pas beaucoup, mais quand on parle avec beaucoup.
On a même reproché à Emmanuel Macron que ça ne faisait pas partie des thèmes, alors que normalement, c'était les thèmes que les Gilets jaunes voulaient voir abordés. Donc.
Oui, sauf que les Gilets jaunes disaient que.
Il paraît que sur les ronds-points, on parle de ça. Hein,
sur les ronds-points, on entend dire que les fins de mois sont plus importantes que la fin du monde.
Ah oui, mais j'ai aussi entendu dire que les flics se faisaient invectiver sur les migrants, pardon, pour les policiers, excusez-moi.
Ensuite, ça a été. Ils ont avancé le thème de la fiscalité qui ne faisait pas partie des grandes priorités. Alors, c'est vrai que ça peut faire partie des grandes priorités, mais ça n'en faisait pas partie. Bref, ce que je veux dire, c'est que les Gilets jaunes et le grand débat ont tendance à nous orienter que vers le court terme.
Ouais.
Or, une politique ne se fait que sur le long terme. Et le grand débat aura sans doute, alors je suis de votre avis, moi, je suis pour le grand débat, je suis même pour y participer, moi-même, avec d'autres.
Hein. Moi aussi.
Mais si on est encore comme c'est le cas aujourd'hui dans les débats, de, ou même quand il y a le président de la République, dans le, la télévision, tout ça, dans les grands débats, le, on s'oriente que vers le court terme, il n'y a pas moyen de s'orienter vers le, vers le long terme.
Anne de la Doucette, et puis après on va passer aux, aux révisions des lois de bioéthique.
Est-ce qu'il y a une finalité ? Est-ce qu'il y a un but final ? Est-ce que le président de la République nous montre un but ? Moi je trouve qu'il n'y a pas de finalité. Donc après, quand on ne respecte pas le principe de finalité, on ne sait pas où on va. Donc, eh ben écoutez, je dis, pour faire le biais, justement,
c'est-à-dire
le lien...
Qu'est-ce que vous auriez ajouté comme sujet dans ces cas-là, ce grand débat, c'est...
Eh ben, je veux dire, on ne sait pas très bien où le président veut mener ce pays. On ne voit pas où est le bien commun dans ce pays. C'est dommage. On n'a pas quelque chose qui nous rassemble. Il y a plus quelque chose... Le progrès ne peut pas... Ça ne peut pas être une fin en soi. Le progrès, c'est un outil, je le répète. Il faut trouver le bien commun de la France. Comment est-ce qu'on refait société ? On ne fera pas société en opposant d'un côté les européennistes, de l'autre côté les populistes. Il faut refaire société. Et c'est au président de la République de retrouver une dynamique pour refaire société.
Mais respecter le pacte social d'après-guerre, par exemple, c'est déjà une première finalité pour...
Oui, peut-être. Mais il faut trouver vraiment une finalité. Parce que là, j'ai l'impression qu'on avance, mais on ne sait pas où. Je ne sais pas, Bernard, j'ai l'impression qu'on ne sait pas où on va, peu. Et donc, on ne peut pas... Et pour rebondir sur les lois de bioéthique, moi, j'étais pour le grand débat. Mais si c'est pour faire comme on a fait avec les lois de bioéthique, où il y a des résultats qui sont sortis après les consultations de la population, et ce que nous propose l'Assemblée est absolument le contraire, et que le Conseil national d'éthique fait absolument le contraire, on se dit, est-ce que les gens vont se dire, on veut bien débattre, on veut bien aller se déplacer, mais si c'est pour qu'on fasse, on ne retienne pas ce qu'on dit, il faut vraiment être à l'écoute. Et là, je ne sens pas tellement qu'on soit vraiment à l'écoute. On écoute, mais on continue à aller dans la même ligne. Ben non, il faut écouter et à modifier la trajectoire en fonction des besoins des gens.
Alors, merci de la transition. On va parler donc, dernier sujet, du rapport de la mission parlementaire sur les révisions de la loi de bioéthique. Donc, fruit des états généraux de la bioéthique, la mission parlementaire a mené un certain nombre, de consultations et donc a été remis ce rapport. C'était le 15 janvier dernier. Je vais essayer de le résumer. Donc, son président, c'est Jean-Louis Touraine, député de La République En Marche, et son vice-président, qui a été moins bavard en cette occasion de la remise de ce rapport, Xavier Breton, lui, Les Républicains. Ce qui est sorti donc de ce rapport, c'est l'ouverture donc de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, aux célibataires. Il faut dépasser les limites biologiques de la procréation de demain, prendre acte de nouveaux modèles familiaux. La notion de projet parental, écrit Jean-Louis Touraine, ce rapport signé donc par Jean-Louis Touraine, son président, semble avoir pris définitivement le pas sur le critère de l'infertilité pathologique, qui actuellement verrouille le champ d'intervention, je cite. Levée d'interdiction même sur l'aide donc à la fécondation post-mortem, recourir à la fois au don de sperme et d'ovocytes. Il reste l'interdiction de la GPA, mais on préconise une retranscription automatique dans le droit français de la filiation des enfants nés par GPA à l'étranger. Ce qui fait dire à Jean Leonetti, l'ancien rapporteur des révisions des lois de bioéthique, que c'est un rapport idéologique. Il craint des effets imprévisibles. Il dit la chose suivante, la science fait des progrès extraordinaires, l'homme doit savoir avoir la sagesse, laissant entendre que là, ce n'est pas le cas. Rapport jugé donc idéologique, extrêmement libéral, etc.
Libertaire.
Bruno Cyr, votre réaction ?
Moi, je partage tout à fait cette inquiétude, parce que, comme disait Anne à l'instant, il y a eu une consultation, il y a un certain nombre de choses qui sont sorties, et on a le sentiment que tout ça a été exprimé, mais n'a pas été entendu.
Donc il faut dire qu'à l'occasion des états généraux de la bioéthique, semble-t-il, il y a eu beaucoup d'avis, et semble-t-il pas que des chrétiens qui auraient été assez présents dans ces états généraux et qui auraient mis des réserves ou des interrogations.
Et malheureusement, on a le sentiment, et s'ils s'y prennent comme ça d'ailleurs, parce que le lien est évident avec le grand débat sur les gilets jaunes, ça va, je promets la catastrophe, parce que là, on a effectivement... une solution, on a l'impression qu'elle était bouclée avant même que le débat ait eu lieu. Donc ça, c'est catastrophique. Alors moi, je suis d'un naturel optimiste. Et je me dis, en fait, l'histoire des Gilets jaunes est un coup de semonce pour montrer qu'on en a marre de cette politique où tout est décidé par quelques technocrates dans des bureaux avec des filtres idéologiques qui ne nous conviennent pas forcément. Et j'espère que le pouvoir... alerté par ça, va revenir en arrière sur ce projet de loi, parce que je le trouve catastrophique. Et je pense qu'il faudra au moins accepter une objection de conscience pour que les gens qui sont comme nous, qui partagent ce souci de la vie et du respect de la vie, puissent avoir se retirer de cette chose-là, parce que c'est même pas prévu dans le projet de loi.
Mais se retirer de quoi? Parce que l'objection de conscience n'a pas toujours...
Dire « moi je fais pas ». Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je fais pas que les médecins puissent le dire, que des infirmières puissent le dire, que des gens, parce que
c'est le cas des sages-femmes en France. Elles ont soi-disant la possibilité d'avoir recourir à l'objection de conscience face aux IVG. On sait que c'est très compliqué après.
Elles peuvent pas travailler pour
trouver des postes.
Elles peuvent pas travailler la porte ou après. Hein.
C'est vrai, mais en même temps, je sais pas comment on va faire par rapport à cette dérive, parce que c'est ce que je disais une fois précédente. Oui, il y a des progrès de la science qui permettent de faire des choses, et malheureusement, les hommes sont toujours tentés d'utiliser les progrès de la science. Et je crois qu'il y a une éthique et une conscience qu'il faut prendre, et c'est à nous, peut-être avec nos valeurs, à faire partager ces valeurs en leur disant « attention, danger, vous jouez aux apprentis sorciers et réfléchissez avant de faire n'importe quoi ». Je crois que ça, il faut faire passer ce message, et il faut convaincre les gens qu'il ne faut pas rentrer là-dedans, même si les lois et la technique le permettent.
Bernard Ibal, les chrétiens ont-ils vocation à crier dans le désert sans être entendus? J'ai sous le nez un résumé du texte des évêques « Respectons la dignité de la procréation » qui parlait de forme d'un eugénisme, une nouvelle forme d'eugénisme, l'eugénisme dit libéral parce qu'il ne résulte plus des décisions de l'État, mais des décisions individuelles. Et j'ai oublié de citer que ce rapport préconise, on va dire, d'ouvrir grand les portes à la recherche sur l'embryon, sur les cellules souches embryonnaires.
Je me demande d'ailleurs si c'est pas pire que l'eugénisme. C'est pas mal déjà l'eugénisme. Parce que on tend vers ce qu'a dit M. Cyr à l'instant. On veut utiliser les progrès de la science qui avancent toutes seules, elles. Elle semblerait être aveugle pour ses finalités. Elle avance en fonction de ses capacités de découvrir. Et on va les utiliser pour changer l'homme, c'est ça qui va plus du tout. Parce que la médecine, elle est faite pour soigner, elle est faite pour guérir, elle est faite pour prévenir. Là, on est bien d'accord. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des prothèses artificielles pour soigner je ne sais quel genou, ou qu'il y ait des cœurs qui avec des artifices pour le maintenir en vie. Mais là, c'est pas le cas. Là, on change les normes. Les normes, L apostrophe, hein. Elle a besoin énorme, non pas elle a besoin justement, LES plus loin, normes, on change les normes de la ville. Et
on transforme aussi la mission de la médecine, c'était ce que...
Et donc le mot eugénisme est faible parce que c'est, on va vers le transhumanisme, quoi. Ouais. Voire même le post-humanisme.
C'est ça,
on est en train de créer une autre espèce. Ouais. L'homme pourrait disparaître avec une autre espèce. Et il y a pas mal d'intellectuels qui n'hésitent pas à parler de post-humanisme, de transhumanisme. Post-humanisme, c'est encore pire, hein. Ça veut dire que l'humanité, c'est fini.
Voilà, parce qu'il faut dire aussi qu'on en est avec la fameuse technique du CRISPR 9, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, on en est à avoir la possibilité aujourd'hui de manipuler les gènes.
Les individus, même si ça ne fait pas partie
normalement des révisions de lois de bioéthique, là, en l'occurrence. Mais...
Non, mais ça viendra, parce que chaque année, on nous en propose une de plus. Hein, et moi, je crois qu'il faut alerter l'opinion sur ce... Enfin, sur tout ce que vous avez dit, hein, je suis d'accord. Hein, mais sur le transhumanisme qui est en train de s'insérer sans le dire, quoi. On nous change l'humanité, on nous en fait une autre.
Danger, apprenti sorcier.
Ouais. Anne de la Doucette, Jean-Louis Touraine ajoutait « Il ne faut pas croire que ce que l'on dit maintenant va être gravé dans le marbre. » On peut aller encore plus loin.
Oui, mais il dit « Il nous faut tout... »
Devant le micro, c'est mieux.
Pardon. « Il nous faut toujours être dans le progrès. » Ça veut dire que son but, c'est pareil, c'est le progrès. « Il faut prendre en compte l'accélération des avancées scientifiques et technologiques biomédicales dans un contexte de mondialisation des enjeux de santé et de recherche afin que les nouvelles demandes de la société induites par ces innovations, ainsi que les nouvelles demandes de la société induites par ces innovations. » Donc le mot, là on est vraiment dans le progrès, l'argent, c'est les mots. Et on est passé le mot bioéthique, qui était quand même bio, la nature, éthique, le bien de l'homme. Donc on passe au mot projet parental, désir, progrès, consommation. On n'est plus du tout dans la bioéthique, là. On est,
Alors, moi, j'ai quand même une question. Est-ce que ce rapport ne va pas, quelque part, servir
la cause de
que défendent les évêques ? Parce qu'il est tellement libéral et en partie, semble-t-il, pas à l'image des conclusions des États généraux de la bioéthique. Est-ce qu'il n'y a pas une frange de la France qui va un peu s'indigner
Si on la laisse s'exprimer, parce qu'on va vous traiter de réactionnaire et de... regardez la réaction...
N'y a-t-il pas plus de réactionnaire en France qu'on croit sur ce sujet ?
Madame Schiappa vis-à-vis de M. Bellamy quand on a annoncé qu'il allait tenir la liste LR aux européennes. Ah, il est contre l'avortement, c'est un réactionnaire, c'est un... Donc, il va falloir se lever, mais ça va pas être facile,
j'allais vous appeler François-Xavier Bellamy, mais il n'y a pas que des François-Xavier Bellamy qui potentiellement pourraient aller marcher demain dans la rue pour dire leur combien ils sont scandalisés par ce projet, non ?
Je crois que nous qui partageons ces convictions, et je suis sûr qu'il n'y a pas que des catholiques et des chrétiens là-dedans, il y a un tas de gens qui partagent ces convictions avec nous,
et c'est
de bon sens, et qui voient ce danger, je crois qu'il faut rentrer en résistance. Il faut dire non. Il y a peut-être une loi qui va permettre de le faire, mais ne le faites pas. Regardez, et il faut expliquer aux gens les dangers que relevait M. Ibal, on va transformer l'humanité. Eh bien, là, on met le doigt dans un engrenage qui est extrêmement dangereux.
Faut-il aller jusqu'à manifester, Bruno Cyr ?
Oui, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Bien sûr, si ça passe par là. Regardez, moi, je suis pour... Je trouve que ce qui s'est passé sur les ronds-points, c'est formidable. Les gens se sont dit, maintenant, on va aller sur les ronds-points dire ce qu'on pense. Je suis pas d'accord avec les grandes manifs à Paris qui bénéficient surtout aux casseurs. Mais, en revanche, je trouve que le mouvement des ronds-points est un mouvement génial parce que là, les gens, ils ont fait de mal à personne. Et tout d'un coup, ils sont devenus visibles et ils ont fait passer des idées qui vont quand même changer un peu le paysage.
Ou d'autres couleurs de gilets.
Eh bien, je pense qu'on peut envisager des actions de ce type-là. Je pense qu'on est au début d'une espèce de reprise en main par les gens qui ont des convictions d'un certain nombre de choix politiques. Eh bien, c'est le moment d'agir.
Bernard Ibal, l'heure est à l'union sur le catholicisme social. Est-ce que tous les chrétiens et d'autres vont manifester cette fois-ci, vous croyez, dans la rue ? Je fais évidemment référence à la manif pour tous, parce qu'on y pense,
oui.
Et les appels sont déjà lancés,
oui.
Mais est-ce que quelque part les manifestants ne vont pas être plus larges, quelle que soit la...
Là, on a discuté du fond, hein. On est tous d'accord. Et il y a aussi la forme après, la forme de la protestation. Il faudrait essayer d'être intelligent. La forme de protestation, quoi.
Absolument.
Par exemple, ce qui s'est passé...
Qu'est-ce qui vous semblerait intelligent, alors,
Ce qui s'est passé au Conseil économique et social, qui s'est vu obligé de mettre en première revendication, la revendication proposée par la manifestation pour tous, montre bien qu'il y a eu un artifice, quoi. Hein, qu'il y a eu une mobilisation artificielle à tel point que il y a que là que ça s'est produit, quoi. Je crois que il faut pas se présenter en conservateur. Il faut au contraire se présenter en homme d'avenir, en homme et femme d'avenir. Faudrait que la manif pour tous accepte, non pas de se dissoudre, au contraire, mais de se mêler à d'autres mouvements. Et de ne pas être leader. Parce que maintenant, elle est un peu trop marquée.
Oui.
D'autant qu'elle a une branche qui est passée chez les Républicains, ça s'appelle...
Sens commun.
Oui. Ça, si on fait ça, on clive. Oui. Et il ne faut pas cliver.
Voilà, merci beaucoup, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup puisque le débat parlementaire est prévu, si j'ai bien compris, pour la fin de l'année scolaire. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.